rester à l'écoute de ce numéro de podcast.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 5 août 2024. En direct de Washington, Rosine Mounenzero. Pour commencer, les titres. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a appelé dimanche à la fin des manifestations contre la vie chère. Au moins 13 manifestants ont été tués selon Amnesty International. Les États-Unis ont achevé leur retrait de la base d'Agadez, leur dernière au Niger. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est emparée dimanche d'Ishasha, une localité frontalière de l'Ouganda. Et dans notre parti magazine, la candidate démocrate Kamala Harris doit annoncer demain, mardi, son choix de colistier dans la course à la présidence des États-Unis. Ne manquez pas notre page de sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont achevé leur retrait de la base d'Agadez, leur dernière emprise au Niger. Le retrait des soldats américains est une exigence du régime militaire au pouvoir à Niamey. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le retrait des forces et du matériel américain de la base aérienne 201 à Agadez est achevé, a déclaré ce lundi dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique. Début juillet, les soldats américains de la base de Niamey avaient tous quitté le pays et il restait quelques 200 éléments de l'importante base de drones d'Agadez dans le nord du pays. Le retrait d'Agadez avait commencé en mai et la coordination se poursuivra entre les forces armées américaines et nigériennes au cours des prochaines semaines afin de s'assurer que le retrait total s'effectue comme prévu, a détaillé Africom sans préciser s'il restait encore des soldats ou seulement du matériel. Les États-Unis étaient engagés au Niger pour lutter contre les djihadistes, mais le régime militaire au pouvoir à Niamey a remis à plat ses partenariats internationaux et demandé leur départ en mars.
Au Nigeria, les manifestations contre les difficultés économiques et la criminalité se poursuivent. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Abuja, de Lagos et d'autres grandes villes. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Dans le centre commercial de Lagos, une centaine de personnes se sont rassemblées sur le lieu de la manifestation en scandant « Nous avons faim ». À Abuja, il n'y avait aucun signe de protestation au stade principal où les manifestants se rassemblent depuis jeudi dernier. Dans le nord du pays, environ 200 manifestants ont été dispersés par les forces de sécurité à Maïdougouri. À Katsina, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui scandaient « La faim et l'insécurité nous tuent ». Amnesty International dit compter au moins 13 morts lors d'affrontements avec la police depuis le début des manifestations qui sont prévues sur 10 jours. La police parle de 7 morts dus à des accidents et à un engin explosif. Hier, le président Ahmed Bola Tinubu a appelé à la fin des violences, se disant toujours ouvert au dialogue. Ces manifestations contre la vie chère et la criminalité doivent se poursuivre jusqu'au 10 août.
L'Église catholique au Sénégal s'est dite indignée par des propos du Premier ministre Ousmane Sonko, assurant que le gouvernement n'accepterait plus qu'on interdise l'accès à une école parce qu'on porte le voile. Le chef du gouvernement a suscité une vive polémique dans ce pays ouest-africain en mettant en garde les établissements qui refuseraient le voile à l'école. Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En France, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style. Mais cela leur appartient, a déclaré le président sénégalais le 30 juillet lors d'une cérémonie primant les meilleurs élèves du Sénégal. 95 Libyens arrêtés il y a 10 jours dans un présumé camp militaire clandestin au nord-est de l'Afrique du Sud ont été maintenus en détention lundi par un tribunal du pays. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Les 95 hommes ont été arrêtés le 26 juillet dans un camp d'entraînement clandestin de type militaire dans la province de Mpumalanga, à la frontière avec le Mozambique et le Swatini. D'après la police, ils étaient entrés sur le territoire avec des visas délivrés dans le cadre d'une formation d'agents de sécurité. Leurs visas, délivrés à Tunis de manière irrégulière et sur la base de fausses déclarations, ont été annulés d'après le gouvernement. Un tribunal sud-africain a renvoyé l'affaire au 26 août pour prolonger l'enquête et éclaircir la raison de leur présence dans ce camp. Maintenus en détention, ils ont pour le moment été inculpés pour violation des règles d'immigration, mais pourraient faire l'objet d'autres chefs d'accusation selon la police. Les raisons de leur présence en Afrique du Sud restent troubles. Le propriétaire du camp d'entraînement n'aurait quant à lui pas été arrêté.
90 Éthiopiens sans papier ont été retrouvés ce week-end dans une maison de Johannesburg où ils étaient séquestrés, a déclaré un porte-parole de la police sud-africaine. C'est en cherchant un homme kidnappé plus tôt dans la semaine que la police a fait cette découverte. Deux suspects ont été arrêtés et devraient répondre d'accusations d'enlèvement et de trafic d'êtres humains. En Éthiopie, un glissement de terrain a fait 11 morts lundi dans le sud du pays, non loin du pays du lieu où un accident similaire a coûté la vie à plus de 250 personnes fin juillet. Des opérations de recherche ont été lancées pour retrouver d'éventuels survivants. Le bilan pourrait s'alourdir, a mis en garde dans un communiqué le département gouvernemental de communication de la zone de Wolaita, sans fournir d'autres détails. Plusieurs centaines de Somaliens ont manifesté lundi à l'appel du gouvernement contre les rebelles Shebab sur la plage de Mogadiscio où les djihadistes ont perpétré vendredi soir un attentat meurtrier. Un kamikaze et plusieurs hommes armés ont attaqué cette plage populaire de la capitale, tuant au moins 37 personnes et blessant des dizaines d'autres. Au Soudan, 23 civils ont été tués samedi à El Fasher, capitale du nord Darfour, après un bombardement mené par les paramilitaires des forces de soutien rapide, a indiqué un groupe local pro-démocratie. Les bombardements sur cette ville ont déjà causé entre le 27 et le 29 juillet la mort de 65 personnes. Le président tunisien Kais Saied a présenté lundi officiellement sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 6 octobre. Monsieur Saied, 66 ans, a déclaré aux journalistes à Tunis que sa candidature s'inscrivait dans le cadre d'une guerre de libération et d'autodétermination visant à établir une nouvelle république. Trois candidats ont été rejetés et placés sous contrôle judiciaire et 68 autres personnes sont en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de fraude électorale, a annoncé lundi le parquet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bangladesh, au moins 20 personnes ont été tuées lundi dans de nouvelles violences dans la capitale Dhaka alors que des manifestants ont pris d'assaut le palais de la première ministre Sheikh Hasina qui a fui en hélicoptère. Les heurts entre opposants à la première ministre, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir ont fait au moins 77 morts hier dimanche, l'une des journées les plus meurtrières depuis le début des manifestations anti-gouvernementales dans le pays. L'armée a par ailleurs annoncé la levée du couvre-feu et la réouverture des bureaux, usines, écoles, universités et commerces pour mardi 6 heures locales, minuit GMT. Le président Mohamed Shahabuddin a ordonné lundi la libération de l'ex-première ministre et chef de l'opposition Khaleda Zia, ainsi que des personnes arrêtées lors des manifestations quelques heures après la fuite de la première ministre. La tempête tropicale Debby s'est renforcée en ouragan dimanche soir à son approche de la côte ouest de la Floride, apportant le risque de pluie historique sur son passage, selon le Centre américain des ouragans. Les précisions de John Lindon.
Le Centre américain des ouragans a mis en garde contre une menace d'inondation majeure dans le sud-est du pays cette semaine. Debby est pour l'instant un ouragan de catégorie 1, la plus faible sur une échelle de 5. Des ordres d'évacuation ont été émis dans plusieurs comtés floridiens, selon les médias locaux. Prenez la situation au sérieux, nous savons que l'eau va monter au fur et à mesure que Debby passe, a déclaré le chef des pompiers et responsable de la sécurité publique du comté de Hernando. Le Centre américain des ouragans a évoqué un danger d'ondes de tempêtes mortelles le long de la côte ouest floridienne au niveau du golfe de Mexique d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 3 mètres. Son directeur, Mike Brennan, a exhorté les habitants à trouver un lieu sûr avant la tombée de la nuit. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait état des risques en particulier dans le centre-nord de l'État. En outre, Debby provoquera des pluies diluviennes potentiellement historiques dans les prochains jours, à mesure qu'elle progressera en Géorgie et en Caroline du Sud, précisent les autorités.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. Place maintenant au sport, les Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques qui entame le dernier virage cette semaine en France. Aujourd'hui, c'est le jour 10 de ces JO Paris 2024. Dans le tournoi du football masculin, l'Afrique a les yeux rivés sur les demi-finales avec deux chances de qualification ce soir pour la finale. Le Maroc joue contre l'Espagne et l'Égypte fait face à la France. Autre chance de médaille ce soir pour le continent dans deux finales. Le 800 et le 5000 mètres féminins dans l'épreuve du 800 mètres. Les Kenyanes Chebet Kiprotich et Mora Mari, les Éthiopiennes Mesele Waknech et Duguma Tisgué et la Sud-Africaine Sekou Disso Prudence sont en lice. En tennis de table, par équipe chez les hommes, l'Égypte a perdu 3-0 devant Taipei chinoise en huitième de finale. Toujours pour le compte de cette journée du lundi 5 août, après trois médailles d'or en autant d'épreuves, l'Américaine Simone Biles a montré qu'elle aussi pouvait échouer. Pour son dernier jour de compétition à Paris, la superstar de la gymnastique n'est pas parvenue à aller chercher l'or, devant se contenter de l'argent au sol et de la cinquième place à la poutre. Simone Biles, qui quitte les Jeux de Paris avec quatre nouvelles médailles olympiques, dont trois titres, s'est dite heureuse et fière de sa compétition trois ans après le traumatisme des Jeux de Tokyo. Elle avait auparavant, rappelez-vous, remporté le titre au concours par équipe, au concours général individuel et au saut, portant à 7 le total de ses couronnes olympiques. Le week-end a été marqué par des succès retentissants. C'est fini pour les épreuves de natation où le continent s'en est bien tiré avec deux médailles en or et une en argent sur les 100 et 200 mètres brasse remportées par la Sud-Africaine Tatjana Smith. Belles prestations africaines au handball masculin et au basketball féminin. L'Égypte et le Nigeria ont fait fort. Les Pharaons sont en quart de finale après avoir battu l'Argentine 34 à 27. Tout comme les Tigresses nigérianes victorieuses des Canadiennes 79 à 70. Après avoir été la première coach féminine à remporter l'Afrobasket féminin en 2023, eh bien la coach Rena Wakama du Nigeria rentre un peu plus dans l'histoire du basket africain, devenant la seule personne, tout genre confondu, à conduire une équipe africaine en quart de finale olympique avec le Nigeria. Au second tour, l'Égypte sera opposée à l'Espagne et le Nigeria fera face aux tenantes du titre. Les Américaines, ces quarts de finale se jouent demain, mardi. L'Afrique s'est aussi illustrée hier grâce à l'Algérie en gymnastique artistique chez les femmes. Kailia Nemour s'est parée d'or au bout du suspense devant la Chinoise Kiyan et le bronze est revenu à l'Américaine Sunisa Lee. C'est la première médaille algérienne de ces JO et le premier titre africain de l'histoire en gymnastique. En boxe, le Cap-Verdien David De Pina a pris le bronze dans la catégorie des moins de 51 kilos après avoir perdu sa demi-finale devant l'Ouzbek Dousmatov. Médaille assurée aussi pour la boxeuse algérienne des moins de 66 kilos Iman Khelif qui est sortie vainqueur de son combat en quart de finale contre la Hongroise Anna Luka Amori. En athlétisme, le continent n'a pas manqué sa sortie aux 10 000 mètres. La médaille d'or a été enlevée par l'Ougandais Joshua Cheptegei devant l'Éthiopien Berou Arigawi. Déception par contre pour la Béninoise Noélie Yarigo. Une fois encore, la guéparde de Pendjari n'ira pas plus loin que les demi-finales. La porte-drapeau de la sélection béninoise, qui avait nourri l'ambition de décrocher une médaille olympique pour la première fois pour son pays, a été éliminée aux portes de la finale. Analyse de cet échec avec Lawal Dino Kosou, journaliste sportif à la radio-télé Carrefou au Bénin.
Sa performance au dernier mondial d'athlétisme avec la médaille de bronze obtenue était comme l'arbre qui cachait la forêt. C'est vrai qu'elle a pu se hisser en demi-finale comme il y a 4 ans. Elle échoue aux portes des demi-finales. Mais pour l'heure, on constate que malheureusement, les Béninois ne sont pas assez préparés. Vu les éliminations qu'on a constatées dans d'autres disciplines, le judo, la natation, donc il faut encore du chemin pour la Béninoise avant donc d'espérer obtenir une médaille aux Jeux Olympiques.
Lawal Dino Kosou, journaliste sportif à la radio-télé Carrefou au Bénin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Mali a rompu avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite des propos d'un porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne sur les combats dans le nord du pays qui ont causé de lourdes pertes dans les rangs des soldats maliens et des combattants de Wagner à la fin du mois de juillet. Pour une analyse de cette nouvelle donne dans ce conflit, Jean-Roger Billon a joint à Bamako l'analyste Issa Diawara.
Je n'ai pas justifié comment l'Ukraine s'introduit dans ce conflit. Il faudrait simplement voir le communiqué avancé par l'Ukraine qui, bien sûr, annonce appuyer les terroristes en termes de renseignements et dans le cadre, bien sûr, de cette opération. Et de l'autre côté, le Mali dit rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite des déclarations faites par l'Ukraine elle-même. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faudrait situer cette rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine.
Alors, est-ce que l'ouverture d'un conflit diplomatique avec l'Ukraine en ce moment, ne va pas compliquer les difficultés du Mali qui déjà est en butte aux attaques djihadistes?
Je pense qu'il faudrait voir ça aussi beaucoup plus sous un angle global, c'est-à-dire pas que qu'est-ce que le Mali y perd. C'est-à-dire, concrètement, le Mali est déjà dans une lutte contre les terroristes depuis la chute du régime libyen. Le Mali, ça fait plus de 10 ans que le Mali fait face à ces terroristes. Maintenant, est-ce l'apport des Ukrainiens aux terroristes? Cela va compliquer davantage la donne pour le Mali. Si nous fions au communiqué des autorités du Mali, et sans doute le Mali dû prendre des mesures, avoir tiré des leçons, et donc essayer de s'adapter et être à la hauteur des menaces présentes. Mais de l'autre côté aussi, il faudrait voir l'Ukraine qui aujourd'hui est en train de s'implanter davantage en Afrique. Il ne faut pas perdre de vue que le Mali, c'est un pays fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc le Mali a beaucoup d'alliés au niveau de l'Afrique. Est-ce aujourd'hui que l'Ukraine revendique publiquement une attaque terroriste contre le Mali va faciliter l'implantation de l'Ukraine en Afrique? Est-ce que cela va donner une bonne image à l'Ukraine au niveau de l'Afrique? Je ne pense pas beaucoup.
Alors comment la présence présumée donc de l'Ukraine dans la région va influencer les équilibres régionaux?
Ce n'est plus une présence présumée parce que les officiels ukrainiens confirment bien sûr qu'ils sont présents dans la région et qu'ils ont participé à cette opération. Mais à quoi cela va faire dans la région? Ça dépend de la politique au niveau régional. Quand on parle d'une présence, si c'était au niveau d'un seul pays, ça serait peut-être au Mali ou bien au pays en question de voir quelle est la réponse appropriée qu'il faudrait apporter. Mais s'il s'agit de la région, ici au niveau de la région, il y a plusieurs organisations. Notamment, nous avons par exemple l'Alliance des États du Sahel qui est dorénavant une confédération. Quelle serait la réponse de cette confédération par rapport à cette menace nouvelle? Aussi, c'est au niveau beaucoup plus élargi, au-delà même des pays de l'Est. Si cela touche directement le pays de la CEDAW, c'est à la CEDAW de voir comment répondre, comment être à la hauteur de cette menace revendiquée et présentée par les autorités ukrainiennes de façon très officielle. Et si cela s'étend au niveau africain, je pense que l'Union africaine doit pouvoir apporter des réponses adéquates. Ne pas apporter des réponses adéquates, c'est tout simplement subir de plein fouet cette nouvelle menace qui avance pas à visage caché, mais bien sûr à visage découvert.
Issa Diawara, analyste géopolitique. Des membres du collectif des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire se sont réunis hier dimanche à Abidjan pour exprimer leur inquiétude à l'approche de la sortie effective du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui doit intervenir en janvier prochain. Le récit d'Abdourahmane Dia.
Près de 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre eux se disent très inquiets de leur situation si la décision de Bamako devenait réalité dans quelques mois. Le président du collectif, Amadou Kodjo, ne souhaite pas que le Mali quitte la CEDEAO. Il estime que les conséquences sur la communauté malienne seraient lourdes.
Si nous quittons la CEDEAO, nous qui vivons de la poussée des charrettes, nous qui travaillons dans la sécurité, comment allons-nous obtenir un permis de séjour qui coûte entre 400 et 500 000 francs CFA? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles rester au pays? C'est pour dénoncer cela que je suis ici.
Les autorités maliennes ainsi que leurs homologues burkinabés et nigériens avec qui elles ont formé l'Alliance des États du Sahel ont déjà dit que leur décision de se retirer de l'organisation régionale était irréversible. Mais Sekou Maïga, porte-parole du collectif, s'inquiète du sort de ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire.
Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora? C'est la question que nous, on se pose en tant que jeunes. maliens vivant à l'étranger.
Cette commerçante Awa Bamba ne désespère pas de voir le Mali et la CEDEAO arriver à un compromis.
De CEDEAO, là, nous, ça nous fatigue vraiment. On est commerçante. Donc, nous, ça nous fatigue. S'ils peuvent voir, ils vont revoir les affaires de CEDEAO. Nous, ça nous arrange, nous, les commerçants, là.
Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont passés à la vitesse supérieure en mettant en place une confédération, la CEDEAO a désigné le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye facilitateur dans les discussions avec les trois pays.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le cessez-le-feu signé la semaine dernière à Luanda entre Kigali et Kinshasa, censé être observé dès aujourd'hui, ne tient pas. Les rebelles du M23 ont encore pris le contrôle de quelques localités. Eddy Sango a joint dans la région le député Eze Kanindou.
Il est vraiment aberrant de constater, après l'accord entre le Rwanda et la RDC pour faire les armes, on voit les éléments M23 commencer encore à attaquer les positions des Wazalendo et les positions des FRDC pour conquérir plusieurs villages dans les territoires de Rutshuru, notamment à Kapiguru, Kisegourou, Nyamilima et Ichasha. Et actuellement, ils sont en train de progresser vers les villages lacustres de Nyakakoma. C'est vraiment honteux pour le Rwanda qui a signé pour l'acte de M23, mais qui ne respecte pas ses engagements.
Comment se passe cette prise de contrôle? Est-ce que c'est avec combat ou sans combat? Parce que nous apprenons qu'il y a des positions qui ont été prises sans combat.
Non, il y a eu des combats, il y a eu des affrontements entre les éléments M23 et les Wazalendo, parce qu'effectivement, dans cette contrée, il n'y avait pas assez d'éléments de FRDC, mais il y avait des éléments Wazalendo. Alors, lorsque les éléments Wazalendo ont été à rupture de munitions, ils ont essayé de replier pour aller se concentrer et voir s'ils peuvent aussi encore faire des assauts. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'accalmie. On observe un accalmie précaire dans toutes ces contrées parce que les Wazalendo et les éléments M23 sont encore dans les parages.
Que doit-on dire? Le cessez-le-feu est censé entrer en vigueur, mais les combats se poursuivent. Comment va-t-il être mis en application? Qu'est-ce qui empêche?
La mise en application du cessez-le-feu devrait d'abord commencer par identifier les zones tambours et créer un mécanisme qui va superviser ces zones tambours. Parce que jusqu'à présent, il y a certains endroits où les éléments FRDC, les éléments du M23 sont à quelques 500 mètres seulement. Donc, si il n'y a pas une force neutre qui peut s'interposer au milieu des éléments FRDC et au milieu des éléments du M23, en tout cas, le cessez-le-feu sera toujours violé. C'est pourquoi nous aurons voulu qu'on puisse, comme à territoire de Lubero, qu'on puisse installer d'abord une force régionale comme la SADC et la MONUSCO pour essayer d'interposer entre les deux belligérants.
Le cessez-le-feu a été signé entre Kinshasa et Kigali. Maintenant, c'est les rebelles du M23 qui sont sur le terrain et qui continuent à avancer. Pensez-vous qu'ils soient, eux, concernés par les cessez-le-feu qui n'ont pas signé?
Les M23 sont censés respecter le cessez-le-feu parce que lorsque Kigali a signé ce cessez-le-feu, il n'a pas dit qu'il n'est pas l'autorité qui est censée de signer le cessez-le-feu pour le compte du M23.
Eze Kanindo, député et notabilité de la région de Lubero, dans l'est de la RDC. Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle de novembre, doit annoncer mardi sa sélection d'un colistier. Son choix de vice-président va la rejoindre lors d'un événement de campagne en Pennsylvanie. Pour sa part, l'ancien président Donald Trump est présent sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi il devrait y avoir un changement de lieu et de date pour le prochain débat présidentiel. Véronica Balderas Iglesias de VOA a les détails. Le récit avec Lionel Gahima.
L'attente est grande pour savoir qui la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris va choisir comme colistier pour le scrutin de novembre. Les trois principaux prétendants sont le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et le sénateur américain Mark Kelly. Le politologue de l'université Duke, John Green, a expliqué à VOA via Skype que le choix du vice-président sera la première impression des électeurs sur le jugement de Harris en tant que 47e président potentiel des États-Unis.
Cela en dira long sur elle, ses priorités, son approche de la gouvernance en termes de qui elle mettra à sa place si, pour une raison quelconque, elle n'était pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions de présidente.
Harris prévoit de visiter plusieurs États pivots avec son choix de vice-président en commençant ce mardi par la Pennsylvanie. La campagne Trump devrait également continuer à investir du temps et de l'énergie dans les États qui pourraient décider de l'issue des élections générales de novembre.
Cette fois-ci, des États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et l'Arizona sont à la fois relativement grands et considérés comme particulièrement compétitifs.
Alors que l'électorat attend l'annonce du candidat à la vice-présidence démocrate, l'intérêt pour le débat entre Kamala Harris et son rival politique et ancien président Donald Trump est également renouvelé. Le candidat républicain soutient que maintenant que le président Joe Biden s'est retiré de la course, le débat présidentiel initialement prévu le 10 septembre sur ABC devrait être remplacé par un débat sur Fox News en Pennsylvanie début septembre avec un public en direct. Samedi, Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social Media « Je la verrai le 4 septembre ou je ne la verrai pas du tout ». La campagne de Kamala Harris a insisté pour qu'elle s'en tienne au plan de débat initial. Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence.
Well, Donald.
Eh bien, Donald. J'espère que vous reconsidérez votre décision de me rencontrer sur la scène du débat. Car, comme le dit le dicton, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face.
Il reste à voir si Harris et Trump se retrouveront face à face, mais l'ancien président Trump aura une nouvelle occasion de faire valoir ses arguments contre Harris et son nouveau colistier lorsqu'il va parler à ses partisans le 9 août à Bozeman dans le Montana.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Munezero. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.